50-50, ça veut dire quoi pour toi?
Oh my god, attends là.
50-50, c'est la proportion de la société. Donc, il y a 51-ish pour cent de femmes puis 49 % d'hommes. Donc, les femmes sont la majorité dans pas mal toutes les populations à travers le monde. Je pense que jusqu'à temps qu'on parle encore des femmes comme étant une minorité, ou qu'on nous traite comme une minorité, ou faut qu'on se batte pour des droits simples comme une minorité, ben je suis pour les quotas.
La notion de 50. Ça jette bien les bases de notre discussion avec nos invités aujourd'hui, Catherine.
Ben oui, parce qu'il va y avoir ce documentaire qui s'intitule 50-50 qui sera diffusé le 5 décembre prochain à 20h. Et on a avec nous Tania Lapointe et Laurence Trépagny qui sont les deux co-réalisatrices de ce documentaire. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Et là, je suis celui à convaincre, moi.
Oui,
hein?
C'est ce qu'on... oui, c'est en minorité pour une fois. Écoute, c'est du 75-25 aujourd'hui.
Pas de problème avec ça.
Les filles, si on me demande naturellement, est-ce que c'est 50-50 dans la vie? Est-ce qu'on est égalitaire? Moi, je sais tout de suite que c'est non. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec le documentaire?
Ben, je pense qu'il y a des gens qui sont pas convaincus de ça. Moi, je pense qu'il y a des gens qui pensent que l'égalité, c'est acquis, que tout est beau, qu'on est égaux. Et en superficie, oui, on peut avoir cette impression-là. Mais nous, on a eu la preuve. Et en fait, on en a tous eu la preuve. C'est juste qu'il faut porter attention. C'est-à-dire que Laurence et moi, quand on a commencé, c'est en juillet 2015, on pensait encore que Hillary Clinton allait être élue la première femme présidente des États-Unis. Ça nous apparaissait une évidence que c'était possible qu'une femme puisse devenir présidente. Et on parlait d'un cabinet paritaire à Ottawa. Et on se disait, ben, en fait, le premier ministre avait défendu ça en disant, ben, parce qu'on est en 2015. Mais on a vu ce qui s'est passé en 3 ans et on a vu à quel point, à plusieurs égards, il y a eu une régression et à quel point c'est fragile et à quel point il faut constamment être conscient des inégalités et de participer. Et nous, notre fil conducteur, notre objectif, ça a été de proposer des solutions parce que selon nous, c'est à petite échelle, dans des gestes concrets, que tous les individus peuvent poser, qu'on peut atteindre l'égalité, mais aussi, évidemment, dans des gestes collectifs, dans des grandes politiques sociales. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on a abordé ça, en se disant, ceux qui sont encore pas convaincus, ben nous, on veut qu'ils participent à ce projet d'égalité.
On va vous jeter à terre. On va vous achever. Est-ce que c'est encore tabou de parler de féminisme?
Oui, moi je pense que oui. Heureusement, de moins en moins, probablement. Je pense que ça tend à changer, puis je pense que la nouvelle génération là le prouve. Ils ont beaucoup moins peur du mot féministe. Tout le monde a commencé à y réfléchir puis à dire, ok, ben féminisme veut dire égalité. Alors en général, les gens sont pour ça. Mais il reste qu'il y a une étiquette, il y a une historique aussi qui vient avec le mouvement féministe. Il y a eu de longues batailles nécessaires, il faut le dire, mais que ça a laissé des traces. Et puis il y a plein de gens qui perçoivent encore ce mot-là, puis c'est rébarbatif encore pour beaucoup de gens. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, puis dans le documentaire, on en parle, on invite des gens qui parlent de féminisme de façon plus humoristique des fois, de façon plus ludique, qui essayent de déconstruire un peu les tabous qui entourent ce mot-là pour dire, hey, dans le fond, là, c'est probablement la même chose qu'on veut. C'est juste que moi, je me dis féministe et toi, peut-être que non. On a des personnages comme Joanne Vracas, qui est une animatrice qui utilise...
Qui a des F-words.
Qui a un F-word. Elle parle de son F-word parce qu'elle dit il y a un mot vulgaire en anglais que je dirais pas, mais qu'elle dit dans le film, qui fait plus peur aux gens que... qui fait moins peur, pardon, aux gens que le mot féminisme. Il faut imaginer, il faut croire que c'est encore présent. Et on a des filles comme Liz Plank qui utilisent aussi toutes sortes de concepts humoristiques pour un peu déconstruire les tabous qui entourent le mot féminisme.
Puis j'ajouterais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent selon des valeurs féministes, mais qui se disent pas féministes.
Donc... Qui savent même pas qu'ils le sont.
Exactement.
Il y a pas une certaine ministre de la condition féminine là-dedans?
Ouais. Mais c'est drôle parce qu'au moment où nous, on a commencé le documentaire, tu sais, la ministre de la condition féminine de l'époque, elle se disait, Lise Thériault ne se disait pas féministe elle-même. Mm-hmm. Puis on venait de proposer le projet, on était déjà en recherche et développement, puis là, on se dit, oh boy, OK, là, il y a quelque chose qui se passe, là, il va avoir, puis ça nous a, tout ça nous a propulsé aussi dans le documentaire à aller chercher des réponses.
Il y a un exemple que je trouve particulièrement intéressant dans votre film, c'est celui des jumeaux. Vous avez interviewé un gars et une fille, et justement, la jeune fille mentionne à quel point elle doit toujours en faire plus, tu sais. donc qui sont élevés avec la... C'est une bonne idée quand même que vous ayez pensé à dire on va prendre un frère et une sœur avec les du même âge, qui sont nés dans la même bédaine et puis qui ont été élevés par les mêmes parents, puis on voit justement que les perceptions sont complètement différentes.
Ouais. Puis moi en fait, j'avais découvert Émile Roy parce qu'il avait fait une vidéo, c'est un YouTuber qui avait fait une vidéo sur sa génération et je me suis dit c'est intéressant, un jeune de 18 ans qui observe la société. Et sachant qu'il avait une jumelle, c'est pour ça qu'on les a invités. Puis moi, je voulais aussi savoir si à 18 ans, ils étaient conscients des inégalités. Quel était leur rapport justement au féminisme? Parce que moi, quand j'avais 18 ans, c'était pas un sujet qu'on abordait si simplement. Et Gabrielle Roy dit, ben oui, mais toute notre génération devrait être féministe. Moi, dans ma génération, c'est pas le genre de discours qu'on tenait.
Ouais, et puis pour nous c'était intéressant d'aller vers les jumeaux aussi parce que c'était un peu un retour aux bases justement. On se disait OK, est-ce qu'un gars et une fille, tu sais, on se pose toujours la question, est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est notre environnement qui nous, tu sais, qui nous programme d'une certaine façon? Et donc de les observer comme ça, on voit ben dans le fond c'est probablement un peu des deux. Tu sais, c'est ça la réponse. C'est évident qu'ils sont conditionnés. Elle le dit, Gabrielle nous parle du fait que elle il y a eu des Barbies dans sa vie, il y a eu du rose puis que son petit frère ou son frère c'était le bleu puis les camions. Donc c'est évident qu'il y a un conditionnement, mais c'était intéressant de retourner justement aux bases de ça puis pour partir le documentaire, pour ouvrir le documentaire en se disant, OK, on part tous du même niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait puis comment on perçoit notre société? Comment on fait pour avancer de là?
Vous êtes de l'école de penser que le non-genré, ça a sa place? Est-ce que c'est la solution pour espèce de laisser tomber justement ces barrières-là? Quoi?
Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai deux enfants, deux petits garçons et mon premier a 4 ans et demi aujourd'hui puis je vous fais la promesse que depuis qu'il est né, j'ai pas insisté sur le bleu, les camions ou quoi que ce soit. J'ai essayé d'être le plus neutre possible, sans être non-genré, parce que c'est un peu impossible dans la vie, mais sans vouloir marquer un genre plutôt qu'un autre, je l'ai laissé faire un peu pour l'observer. C'était un peu ma recherche et développement, mon premier garçon. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait des choses qui naturellement, il y avait une propension naturelle vers certaines choses. Pour lui, là, le camion de poubelle qui passe dans la rue était vraiment spectaculaire et intéressant, quand pourtant, notre petite copine qui avait le même âge, pas du tout pour elle. Donc, je me suis dit depuis le début, effectivement, il y a des choses qui naturellement sont des propensions naturelles. Et je pense qu'après ça, la société nous conditionne et plus on vieillit, plus on est conditionné et l'âge crucial, c'est probablement l'adolescence. Alors, c'est pour ça que les jumeaux, à la fin de leur adolescence, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont retenu là, de leur éducation puis comment ils entrent dans la société en tant qu'adultes. Et puis, on voit, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'eux, à 18 ans, ils sont beaucoup plus égalitaires que les générations qui ont précédé. Donc, il y a de l'espoir, selon nous.
Et c'est vrai qu'il y a des pulsions naturelles, mais je pense que Simone de Beauvoir le disait, on ne naît pas femme, on le devient. Je pense qu'on pourrait dire, on ne naît pas homme, on le devient.
Ouais.
Je pense que oui, il y a des éléments naturels de la nature, mais dans le livre, je parle d'un homme qui se rappelle à l'âge de 8 ans jouer avec la poupée de sa sœur qu'il trouvait très chouette parce qu'il pouvait mettre le petit biberon dans la bouche et que son père est arrivé et puis il a dit, coudon, t'es-tu fif? Et puis qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit, ben moi, je suis un garçon, je ne dois pas jouer. Donc, je pense que dans le conditionnement, il y a ces moments-là qui, même s'ils ne viennent pas des parents, ils viennent de l'environnement, vont avoir un impact sur nos comportements quand on devient adulte.
Vous avez parlé à plein de gens. Il y a Pauline Marois, il y a Amir Kadir et Françoise David qui se proposaient comme des porte-parole égalitaires, un homme et une femme. Mais il y a un témoignage que j'avais envie d'écouter de Caroline Cozzi qui est à la tête de gouvernance au féminin, qui cherche à placer des cadres dans des conseils d'administration. Et là, on va parler de quotas.
Les femmes, quand elles nous disent « non, je veux pas de quotas », c'est parce qu'elles ont l'impression que si elles sont nommées dans un conseil d'administration, c'est parce qu'elles sont une femme et que c'est pour cocher une case. Et souvent, moi, ce que je réponds à ces femmes-là, c'est « mais est-ce que tu penses vraiment que tu n'as pas les compétences, l'éducation, l'expérience, l'ambition pour y parvenir ?» Alors, le bassin de femmes éduquées, expérimentées, qui feraient un travail extraordinaire sur leur conseil d'administration, et leur représentativité, il y a un décalage énorme. Elles sont là, elles sont prêtes, et on nous dit qu'on ne trouve pas les femmes. Et ça fait que prouver une chose, c'est que quand on légifère, on trouve les femmes. Et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses.
Est-ce que vous êtes pour les quotas, les filles?
Je l'étais pas. La vérité, je ne l'étais pas avant de faire ce documentaire. Et s'il y a quelqu'un qui peut vous convaincre des quotas, c'est Caroline Cozzi.
Même chose, pour moi. Ouais, on a été convaincus.
Oui, et convaincus. Et moi, je pense que ce que j'ai trouvé rassurant dans toutes les rencontres qu'on a eues, notamment celle avec Caroline Cozzi, c'est qu'il y a des nuances. C'est que oui, les quotas, C'est une mesure qui permet d'augmenter la présence des femmes dans des postes décisionnels, à plusieurs, dans, pas seulement dans les conseils d'administration, mais dans plusieurs domaines. Mais nous, il y a entre autres Charlotte Sabourin, qui est philosophe, qui dit « oui, les quotas, mais il faut aussi s'attaquer aux problèmes. Si dans un milieu donné, on a de la difficulté à avoir des femmes, il faut savoir et trouver la raison. Et peut-être qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, ça ne suffit pas d'avoir juste des quotas, d'imposer un chiffre qui satisfait et de trouver des solutions. Et même qu'il y a aussi une autre nuance,
ouais,
qui est la fameuse zone paritaire.
Qui, moi c'est cet élément-là qui m'a convaincue, en fait, par rapport au quota, parce que moi, comme Tania, j'étais pas du tout convaincue avant. Mais ce qui est formidable avec la zone paritaire, c'est qu'en fait, on peut se donner des objectifs qui sont réalistes et que dans une zone paritaire qui peut être 40, 60 ou qui peut être... T'sais, ça peut être un chiffre qu'on décide dans un certain domaine. Ça pourrait même être 30, 70 quand on sait qu'on a tellement de difficultés à amener des femmes, par exemple. Mais dans une zone paritaire, c'est un objectif réaliste qui te permet d'atteindre justement ton objectif, de créer le momentum pour aller les chercher, les femmes, mais sans nécessairement être rigide, cocher une case, remplacer un homme par un homme, remplacer une femme par une femme, se donner une certaine flexibilité, comme l'explique Caroline dans le film, qui nous permet d'aller chercher le meilleur talent dont on a besoin pour le poste, mais qui a une zone qui nous, quand même, force à avoir une bonne représentativité des femmes et des hommes dans tous les milieux.
Et la zone paritaire, faut dire, c'est vraiment la reconnaissance est du 40%, puis on l'a atteint à l'Assemblée nationale avec le 40% de femmes élues. Puis on se dit, ben c'est pas le fameux 50-50 égal, mais c'est déjà une énorme victoire où on peut se dire, ben il y a une représentation suffisante,
substantielle quand même.
Et souhaitons-là qu'il y en aura plus avec le temps.
Au-delà du genre de la personne, si la personne n'a pas, si on n'a pas, je sais pas moi. Un contingent d'hommes n'a pas d'intérêt pour l'éducation, ça va être difficile de les amener à faire ça parce que...
Mais là est la question, hein. Faut valoriser certains milieux puis se dire, OK, on en aurait besoin de professeurs masculins au niveau primaire. Donc, il faudrait valoriser ce domaine-là pour que les hommes aient un intérêt à en faire partie. T'sais, c'est ça aussi. Là est la discussion. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'intérêt, les femmes, dans certains milieux, domaines, puis les hommes dans les autres? C'est là où il faut peut-être, comme société, avoir une réflexion puis se dire, OK, il faut qu'on y pense, il faut changer les choses.
Intéressant, tout ça.
Merci beaucoup, Laurence Trépanier. Merci beaucoup, Tania Lapointe.
Ça fait plaisir.
Je rappelle, le documentaire 50-50 sera présenté à RDI le 5 décembre prochain à 20h. Il y a aussi un livre que vous avez fait qui sera disponible le 5 décembre et sur tout.tv. Vous allez aussi pouvoir revoir le documentaire. Merci beaucoup, mesdames.
Merci.